chapitre 16. Social-nativisme, le piège identitaire postcolonial. Nous venons d'étudier la transformation des clivages politiques et électoraux au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France depuis l'après-guerre. En particulier, nous avons observé dans ces trois pays comment la structure classiste du système de partis de la période 1950-1980 avait graduellement laissé la place dans les années 1990-2020 à un système d'élites multiples, au sein duquel le parti des plus diplômés, la gauche brahmane, et celui des plus hauts revenus et patrimoines, la droite marchande, alternent au pouvoir. La toute fin de la période est marquée par des conflits croissants autour de l'organisation de la mondialisation et de la construction européenne, opposant des classes favorisées globalement favorables à la continuation de l'organisation actuelle et des classes défavorisées qui y sont de plus en plus opposées, et dont le légitime sentiment d'abandon est habilement exploité par diverses idéologies nationalistes et anti-immigrées. Dans ce chapitre, nous allons d'abord constater que les évolutions observées dans les trois pays étudiés jusqu'ici se retrouvent aussi en Allemagne, en Suède et dans la quasi-totalité des démocraties électorales européennes et occidentales. Nous analyserons également la structure singulière des clivages politiques observés en Europe de l'Est, en particulier en Pologne. Celle-ci illustre l'importance de la désillusion post-communiste dans la transformation du système de partis et dans l'émergence du social-nativisme, qui apparaît comme le produit d'un monde à la fois post-communiste et post-colonial. Nous analyserons dans quelle mesure il est possible de dépasser le piège social-nativiste et de dessiner les contours d'une forme de social-fédéralisme adaptée à la configuration européenne. Nous étudierons ensuite la transformation de la structure des clivages politiques dans les démocraties électorales non occidentales, et notamment en Inde et au Brésil. Nous verrons dans les deux cas des exemples de développement incomplet de clivages de type classiste qui nous aideront à mieux comprendre les trajectoires occidentales et la dynamique des inégalités mondiales. Ces différents enseignements nous conduiront enfin à examiner dans le prochain et dernier chapitre les éléments programmatiques susceptibles d'alimenter en ce début de XXIe siècle de nouvelles formes de socialisme participatif dans une perspective transnationale. Du parti des travailleurs à celui des diplômés, similarités et variantes. Précisons tout d'abord que nous n'allons pas pouvoir traiter du cas de chaque pays de façon aussi détaillée que ce que nous avons fait pour le cas de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, d'une part parce que cela dépasserait de beaucoup le cadre de ce livre, et d'autre part car les sources n'ont pas encore été rassemblées de façon systématique pour tous les pays. Dans ce chapitre, nous allons commencer par présenter de façon relativement succincte les principaux résultats actuellement disponibles pour les autres démocraties électorales européennes et occidentales. Nous analyserons de façon plus détaillée les résultats obtenus dans le cas de l'Inde et à un degré moindre dans celui du Brésil. Outre que la démocratie indienne comprend plus d'habitants et d'électeurs que toutes les démocraties électorales occidentales réunies, l'examen de la structure des électorats et de la transformation des clivages sociopolitiques en Inde depuis les années 1950 et 1960 jusqu'aux années 2010 illustre le besoin impérieux de sortir du cadre occidental pour mieux comprendre les déterminants politico-idéologiques des inégalités, tout comme les conditions de formation de coalitions redistributives. En ce qui concerne les démocraties électorales occidentales, la principale conclusion est que les résultats obtenus pour le Royaume-Uni, les États-Unis et la France sont représentatifs d'une évolution beaucoup plus générale. Tout d'abord, on constate que le retournement du clivage éducatif s'est produit non seulement dans les trois pays déjà étudiés, mais également dans les pays d'Europe qui constituent le cœur historique de la social-démocratie, notamment l'Allemagne, la Suède et la Norvège. Voir graphique 16.1. Dans ces trois pays, la coalition politique qui s'apparentait dans les décennies de l'après-guerre au Parti des travailleurs, avec des scores particulièrement élevés au sein des catégories plus modestes, est devenu à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle le parti des diplômés, réalisant ses meilleurs scores dans les groupes les mieux formés. En Allemagne, On observe par exemple que le vote pour le Parti social-démocrate, SPD, et les autres partis de gauche et écologistes, Die Linke et Die Grünen en particulier, est dans les années 1990-2020 entre 5 et 10 points plus élevé parmi les électeurs les plus diplômés que parmi les moins diplômés, alors qu'il était autour de 15 points plus faible parmi les premiers dans les années 1950-1980. Afin d'assurer la plus grande comparabilité possible dans le temps et entre les pays, je me concentre ici sur la différence entre les votes observés parmi les 10% des électeurs les plus diplômés et les 90% les moins diplômés. Après prise en compte des variables de contrôle, c'est-à-dire en raisonnant toutes choses égales par ailleurs. Il faut toutefois préciser que, de la même façon que pour la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, les tendances observées sont similaires si l'on compare les diplômés du supérieur et les non-diplômés du supérieur, ou bien les 50% les plus diplômés et les 50% les moins diplômés, avant ou après prise en compte des variables de contrôle. Dans le cas de l'Allemagne, on remarquera que l'ampleur du retournement du clivage éducatif est quasiment identique à celle observée pour le vote travailliste au Royaume-Uni. On notera aussi le rôle joué dans la trajectoire allemande par l'émergence de Die Grünen. À partir des années 1980 et 1990, le parti écologiste a attiré une part importante du vote des catégories les plus diplômées. Il faut toutefois souligner que l'on observe également un retournement du clivage éducatif, quoique moins marqué en fin de période, si l'on se concentre sur le vote SPD proprement dit. De façon générale, si la structuration institutionnelle des partis et des différents courants politiques varie considérablement entre les pays, comme nous l'avons vu en comparant le cas de la France à ceux des États-Unis et du Royaume-Uni, il est surprenant de constater que cela semble avoir un impact limité sur les grandes tendances étudiées ici. S'agissant de la Suède et de la Norvège, il est frappant de voir à quel point la politisation du clivage de classe était forte dans l'après-guerre. Concrètement, le vote social-démocrate parmi les 10% les plus diplômés était de l'ordre de 30-40 points plus faible que parmi les 90% les moins diplômés entre 1950 et 1970. Par comparaison, cet écart était de l'ordre de 15-20 points en Allemagne et au Royaume-Uni et de 10-15 points en France et aux États-Unis. Ceci exprime à quel point les partis sociaux-démocrates nordiques ont été bâtis autour d'une mobilisation exceptionnellement forte de la classe ouvrière et des travailleurs manuels. Ceci a d'ailleurs permis de venir à bout d'une inégalité propriétariste particulièrement extrême jusqu'au début du XXe siècle, en particulier en Suède, avec un système de vote proportionnel à la fortune, et de mettre en place des sociétés inhabituellement égalitaires dans l'après-guerre. Il reste que l'on observe dans ces deux pays une érosion graduelle de cette base électorale qui commence à se faire sentir dès les années 1970 et 1980 et se prolonge au cours de la période 1990-2020. Les classes d'électeurs les moins diplômées ont peu à peu cessé d'accorder leur confiance aux sociaux-démocrates qui, en fin de période, font leur plus haut score parmi les plus diplômés. Par comparaison à ce que l'on observe aux États-Unis et en France, et à un degré moindre au Royaume-Uni et en Allemagne, le vote social-démocrate au sein de l'électorat populaire s'est certes maintenu à un niveau plus important en Suède et en Norvège. Mais la tendance de fond, qui dans tous les pays s'étale maintenant sur plus d'un demi-siècle, va clairement dans la même direction. Les enquêtes post-électorales disponibles dans les différents pays ne permettent pas toujours de remonter jusqu'aux années 1950. Le type des enquêtes menées et l'état des fichiers conservés ne permettent souvent de commencer l'analyse de la structure des électorats sur une base systématique et comparable que dans les années 1960, voire dans les années 1970 ou 1980. Les matériaux rassemblés permettent toutefois de constater que le retournement du clivage éducatif est un phénomène extrêmement général au sein des démocraties électorales occidentales. Dans la quasi-totalité des pays étudiés, on constate que le profil du vote pour les partis de gauche, travaillistes, sociaux-démocrates, socialistes, communistes, radicaux, etc., avec des variantes suivant les pays, s'est renversé durant le dernier demi-siècle. Au cours de la période 1950-1980, ce profil était décroissant avec le niveau du diplôme. Plus les électeurs étaient diplômés, moins ils votaient pour ces partis. Au terme d'une évolution graduelle, ce profil est devenu de plus en plus nettement croissant au cours de la période 1990-2020, plus les électeurs sont diplômés, plus ils votent pour ces mêmes partis, qui de toute évidence ont changé de nature. On retrouve, par exemple, cette même évolution dans des pays aussi différents que l'Italie, les Pays-Bas ou la Suisse, ainsi qu'en Australie, au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Voir graphique 16.2. Lorsque les questionnaires des enquêtes le permettent, nous retrouvons également pour les différents pays des résultats comparables à ceux obtenus pour la France, les États-Unis et le Royaume-Uni concernant l'évolution du profil du vote en fonction du revenu et du patrimoine. À l'intérieur de ce schéma général, chaque pays présente des particularités importantes en fonction de sa configuration socio-économique et politico-idéologique propre. Ces différentes trajectoires mériterait des analyses approfondies qui dépasseraient de beaucoup le cadre de ce livre. Je reviendrai toutefois plus loin sur le cas de l'Italie, qui présente un exemple emblématique de la décomposition avancée du système de partis de l'après-guerre et de l'émergence d'un pôle idéologique de type social-nativiste. La seule véritable exception à cette évolution générale de la structure des clivages politiques au sein des démocraties électorales des pays développés semble concerner le Japon, qui n'a jamais véritablement connu de système de parti de type classiste comparable à ceux observés dans les pays européens et occidentaux au cours de l'après-guerre. Le Parti libéral-démocrate, PLD, a été au pouvoir de façon quasi permanente au Japon depuis 1945. Historiquement, ce parti conservateur quasi hégémonique a réalisé ses meilleurs scores au sein du monde rural et agricole et parmi la bourgeoisie urbaine. Le PLD a ainsi réussi à faire la synthèse entre les élites économiques et industrielles et le Japon traditionnel, autour d'un projet de reconstruction du pays dans un contexte complexe marqué par l'occupation états-unienne et un anticommunisme exacerbé par la proximité russo-chinoise. À l'inverse, le Parti démocrate, principal parti d'opposition, a généralement réalisé ses meilleurs scores parmi les salariés urbains modestes et moyens et parmi les plus diplômés, volontiers contestataires face à la présence états-unienne et le nouvel ordre moral et social incarné par le PLD, mais sans parvenir à rassembler durablement une majorité alternative. Plus généralement, la structure spécifique du conflit politique au Japon doit être relié à la forme particulière prise par les clivages nippons autour du nationalisme et des valeurs traditionnelles. Repenser l'effondrement du système gauche-droite de l'après-guerre. Récapitulons. Par comparaison à la très forte concentration des revenus et de la propriété observée au XIXe siècle et jusqu'en 1914, les inégalités de revenus et de patrimoine se sont situées à des niveaux historiquement bas dans la plupart des pays au cours de la période 1950-1980. Cette chute de l'inégalité est due pour partie au choc et aux destructions des années 1914-1945. Mais elle s'explique aussi et surtout par une remise en cause profonde de l'idéologie propriétariste dominante au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et par la mise en place au cours des années 1950-1980 de nouvelles institutions et politiques sociales et fiscales visant explicitement à réduire les inégalités, propriété mixte, assurance sociale, impôts progressifs, etc. Dans l'ensemble des démocraties électorales occidentales, le système politique se structurait au cours de la période 1950-1980 autour d'un conflit gauche-droite de type classiste, au sein duquel s'organisait le débat concernant la redistribution. Les partis sociaux-démocrates, au sens large, Parti démocrate aux États-Unis et diverses coalitions de partis sociaux-démocrates, travaillistes, socialistes et communistes en Europe, s'appuyaient sur les électeurs socialement les plus défavorisés, alors que les partis de droite et de centre-droit, Parti républicain aux États-Unis et diverses coalitions de partis chrétiens-démocrates, conservateurs et libéraux-conservateurs en Europe, attiraient davantage de suffrages parmi les électeurs socialement favorisés. Il en allait de même, quelle que soit la dimension de la stratification sociale envisagée, revenus, diplômes, patrimoine. Cette structure classiste du conflit politique a connu une extension géographique tellement générale au cours des décennies de l'après-guerre que l'on s'est souvent pris à penser qu'elle était la seule possible et que toute déviation par rapport à celle-ci ne pouvait être que temporaire et anormale. En réalité, cette structure gauche-droite de type classiste correspondait à un moment historique particulier et était le produit de conditions socio-économiques et politico-idéologiques spécifiques. Dans l'ensemble des pays étudiés, ce système gauche-droite s'est graduellement décomposé au cours du dernier demi-siècle. Les noms des partis sont parfois restés les mêmes, à l'image des partis démocrates et républicains aux États-Unis, inusables malgré leurs multiples métamorphoses. Ils ont, dans d'autres cas, accéléré leur processus de renouvellement terminologique, comme en France et en Italie au cours des dernières décennies. Mais dans tous les cas, que les noms des partis soient restés les mêmes ou non, la structure du conflit politique dans les démocraties électorales occidentales au cours de la période 1990-2020 n'a plus grand-chose à voir avec celle de la période 1950-1980. Dans l'après-guerre, la gauche électorale était dans tous les pays le parti des travailleurs. Au cours des décennies récentes, elle est devenue un peu partout le parti des diplômés, avec des niveaux de soutien d'autant plus forts que le diplôme est élevé. Dans tous les pays étudiés, les électeurs les moins diplômés ont peu à peu cessé de voter pour ces partis, provoquant un retournement complet du clivage éducatif tout en réduisant fortement leur participation électorale. Quand un divorce d'une telle ampleur se produit dans tant de pays, au cours d'un processus de long terme s'étalant sur plus de 6 décennies, il ne peut pas s'agir d'un malentendu. La décomposition du système gauche-droite de l'après-guerre, et en particulier le fait que les classes populaires ont graduellement retiré leur confiance aux partis qui avaient leur soutien dans les années 1950-1980, peut s'expliquer parce que ces partis et mouvements politiques n'ont pas su renouveler leur plateforme idéologique et programmatique et l'adapter aux nouveaux défis socio-économiques qui sont apparus au cours du dernier demi-siècle. Parmi ceux-ci figurent notamment l'expansion éducative et la mondialisation économique. Avec l'expansion éducative et le développement sans précédent de l'enseignement supérieur, la gauche électorale est peu à peu devenue le parti des plus diplômés et des gagnants du système éducatif, la gauche brahmane, alors que la droite électorale restait celui des plus hauts revenus et patrimoines, la droite marchande, bien que de moins en moins nettement. Cela a conduit à rapprocher les politiques sociales et fiscales des deux coalitions alternant au pouvoir. Par ailleurs, avec le développement des échanges commerciaux, financiers et culturels à l'échelle de l'économie monde, les différents pays se sont retrouvés sous la pression d'une concurrence sociale et fiscale de plus en plus forte, au bénéfice des groupes disposant du capital éducatif ou financier le plus élevé. Or, les partis sociaux-démocrates, au sens large, n'ont jamais véritablement cherché à développer leur programme de redistribution à l'échelle internationale, au-delà de l'État-nation. D'une certaine façon, ils n'ont jamais répondu à la critique que leur adressait déjà Hannah Arendt en 1951, quand elle notait que la régulation des forces débridées de l'économie monde ne pouvait se faire qu'au moyen du développement de formes politiques transnationales nouvelles. Ils ont au contraire puissamment contribué à lancer à partir des années 1980-1990 le mouvement de libéralisation généralisée des flux de capitaux, sans échange d'informations et sans régulation ni fiscalité commune, pas même au niveau intra-européen. La fin des empires coloniaux, l'accroissement des échanges et de la concurrence entre anciennes puissances industrielles et pays pauvres et émergents à main-d'œuvre bon marché et la montée en puissance de nouveaux flux migratoires ont également contribué au développement au cours des dernières décennies de clivages électoraux de type identitaire et ethno-religieux inconnus auparavant, en particulier en Europe. Cela a notamment pris la forme de nouveaux partis anti-immigrés à la droite de la droite, ainsi que du durcissement des positions des partis de la droite électorale sur ces questions, qu'il s'agisse des républicains aux États-Unis, des conservateurs au Royaume-Uni ou des autres partis de droite en Europe occidentale. Deux points méritent toutefois d'être soulignés. D'une part, le processus de décomposition de la structure gauche-droite classiste de l'après-guerre prend place de façon graduelle au fil d'un mouvement qui débute dès les années 1960 et 1970, c'est-à-dire bien avant que le clivage migratoire ne devienne véritablement prégnant dans la plupart des pays occidentaux, généralement à partir des années 1980 et 1990, voire beaucoup plus récemment dans certains cas. D'autre part, si l'on examine les différents pays occidentaux, il est frappant de constater que le retournement du clivage éducatif s'est produit un peu partout au même rythme au cours du dernier demi-siècle, sans relation apparente avec l'importance des clivages raciaux ou migratoires. Autrement dit, s'il est bien évident que les clivages identitaires ont été exploités de plus en plus durement par les partis anti-immigrés ou les franges anti-immigrés des partis anciens au cours des dernières décennies, il apparaît tout aussi clairement que ce n'est pas ce facteur qui a causé le retournement initial. une interprétation plus satisfaisante et que le sentiment d'abandon des classes populaires face aux partis sociaux-démocrates au sens large a constitué un terreau fertile pour les discours anti-immigrés et les idéologies nativistes. Tant que le manque d'ambition redistributive qui est à l'origine de ce sentiment d'abandon n'aura pas été corrigé, on voit mal ce qui empêcherait ce terreau d'être exploité toujours davantage. Enfin, le dernier facteur expliquant l'effondrement du système gauche-droite de l'après-guerre est sans nul doute la chute du communisme soviétique et les profondes transformations des rapports de force politico-idéologiques induites par cet événement fondamental. L'existence même du contre-modèle communiste a longtemps constitué une force contribuant à mettre la pression sur les élites des pays capitalistes et les forces politiques initialement hostiles à la redistribution. Mais il a également contribué à limiter les ambitions redistributives des partis sociaux-démocrates qui étaient, de fait, intégrés dans le camp anticommuniste et n'avaient guère d'incitation à se lancer dans le développement d'un modèle alternatif de socialisme internationaliste et de dépassement du capitalisme et de la propriété privée. Surtout, l'effondrement du contre-modèle communiste en 1990-1991 a contribué à convaincre de nombreux acteurs politiques, en particulier au sein de la mouvance social-démocrate, qu'une telle ambition redistributive n'était au fond pas nécessaire, et que l'autorégulation des marchés et leur extension maximale à l'échelle européenne et mondiale suffisaient à définir un nouvel horizon politique. C'est à ce moment charnière des années 1980 et 1990 que furent mises en place un grand nombre de mesures clés, à commencer par la libéralisation complète des flux de capitaux, sans régulation, en particulier par des gouvernements sociaux-démocrates et sur lesquels ces derniers ne savent plus bien comment revenir.